J'ai trompé Jason pour la première fois quand Henry avait 11 mois. Je n'en pouvais plus. Les nuits sans sommeil, la routine épuisante, nourrir, bercer, changer, nourrir, bercer, changer. J'étais déjà inscrite à des cours universitaires en ligne et il me semblait que tous les instants où je ne m'occupais pas d'un bébé, je les passais à rédiger une dissertation, à faire des recherches, à essayer de me souvenir de mes cours de maths de lycée. Je me sentais à la fois incroyablement minée et prodigieusement fébrile, à cran. Comme si ma peau était trop tendue ou que mon cuir chevelu comprimait mon cerveau. Je me surprenais à tout remarquer, depuis le toucher soyeux de la couverture rose de Rhee jusqu'au picotement d'aiguilles de la douche brûlante qui me cinglait la poitrine. Pire, je sentais les ténèbres envahir mon esprit. Jusqu'à respirer l'odeur écœurante des roses fanées dans tous les coins de ma propre maison. Et à craindre le sommeil parce que je savais que je me réveillerais en sursaut en entendant la voix de ma mère babiller au bout du couloir. Je sais quelque chose que tu ne sais pas. Je sais quelque chose que tu ne sais pas. Un jour, je me suis retrouvée devant l'évier de la cuisine à me récurer les mains avec une brosse en fer. J'essayais d'effacer mes propres empreintes digitales, de me décaper la peau pour en faire sortir l'ADN. Et j'ai compris que c'était ça, les ténèbres. Ma mère, ma propre mère, qui prenait racine dans ma tête. Il y a des gens qu'il ne suffira jamais de tuer une seule fois. J'ai dit à Jason que j'avais besoin d'une escapade. 24 heures. Pourquoi pas dans un hôtel où je pourrais écraser un peu, me faire monter mes repas, reprendre mon souffle. J'ai sorti la brochure d'un spa en centre-ville près du Four Seasons, avec la carte des soins. Tout était à un prix exorbitant, mais je savais que Jason ne me le refuserait pas, et il ne me l'a pas refusé. Il a pris son vendredi et son samedi pour rester avec Larissa. « Ne te presse pas pour rentrer, » m'a-t-il dit. « Prends ton temps, détends-toi, je comprends, Sandy, vraiment. » Alors, je suis allée dans une chambre à 400 $ la nuit, et j'ai dépensé l'argent du spa pour m'acheter une mini-jupe en daim sur Newsbury Street, des talons aiguilles noirs de chez Kate Spade et un haut dos nu qui m'interdisait de porter un soutien-gorge. Ensuite, je suis allée au bar Armani et je me suis lancée. Rappelez-vous que je n'avais que 19 ans. Je me souvenais de tous les trucs et vous pouvez me croire, j'en connais beaucoup. Une fille comme moi, en dos nu et talons aiguilles, j'ai eu du succès dès le début de la soirée et ça a continué jusqu'à 2 h du matin à m'envoyer des coups de vodka quand je ne dansais pas sur les genoux de vieux dégueulasses ou de petits jeunes de l'université. Ma peau me démangeait. Je la sentais s'embraser. Plus je buvais, plus je dansais, plus je roulais des hanches avec les mains d'un inconnu plaquées sur les fesses, son entrejambe appuyant entre mes cuisses stratégiquement écartées. J'avais envie de boire toute la nuit, de danser toute la nuit. J'avais envie de baiser jusqu'à en oublier mon nom, jusqu'à hurler de rage et de désir, jusqu'à ce que ma tête explose et que les ténèbres finissent par s'en aller. J'ai pris mon temps pour choisir le partenaire avec lequel finir la nuit. Pas un vieux. Ils étaient bons pour me payer des verres, mais risquaient de claquer d'une crise cardiaque s'ils essayaient d'être à la hauteur avec une fille comme moi. J'ai jeté mon dévolu sur un des petits étudiants. Le genre muscle en béton, testostérone en furie, et sourire béat tellement il n'en revenait pas que je parte avec lui. Je l'ai laissé me ramener dans sa résidence où je lui ai montré ce qu'on pouvait faire accroché à la couchette supérieure de lit superposé. Quand j'en ai eu fini avec lui, je me suis aussi fait son copain de chambre. Le premier prétendant était trop cassé pour se plaindre, et son camarade, un informaticien lunetteux sans aucun tonus musculaire, s'est montré extrêmement reconnaissant et utile à sa manière. Je suis partie peu après le lever du soleil. J'ai laissé mon string rose vif accroché à la poignée de la porte en guise de souvenir, et j'ai marché jusqu'à la station de métro pour regagner mon hôtel. Le portier a failli avoir une attaque en me voyant. Il m'a sans doute prise pour une pute, ou, excusez-moi, une call girl de luxe, ce qui, maintenant que j'y pense, aurait été un bon boulot pour moi. Mais comme j'avais déjà la clé de ma chambre, il n'a pas eu d'autre choix que de me laisser entrer. Je suis montée à ma chambre. Je me suis brossée les dents, douchée, rebrossée les dents et je me suis écroulée sur le lit. J'ai dormi sans bouger le petit doigt pendant 5 heures, comme une souche. Et à mon réveil, je me suis sentie saine d'esprit pour la première fois depuis des mois. Alors j'ai fait ce qu'il y avait de plus raisonnable. J'ai mis la jupe, les talons aiguilles et le haut en bouchon, et je les ai jetés. J'ai encore pris une douche et frotté mes mains qui sentaient le sperme, la transpiration et la vodka citron. Ensuite, j'ai passé la lotion parfumée à l'orange sur mes côtes meurtries, mes cuisses irritées, mon épaule mordue. et j'ai remis mon pantalon en velours gris et mon col roulé lavande pour aller retrouver mon mari à la maison. Je serai sage, me suis-je dit pendant tout le retour jusqu'à Saoudi. À partir de maintenant, je serai sage. Mais je savais déjà que je recommencerais. La vérité, c'est que ce n'est pas très difficile de vivre dans le mensonge. J'ai dit bonjour à mon mari avec un baiser sur la joue. Jason m'a rendu ma bise en me demandant poliment comment s'était passé mon week-end. « Je me sens beaucoup mieux », lui ai-je répondu avec franchise. « Tant mieux », a-t-il dit. Et j'ai compris, rien qu'à son regard sombre, qu'il savait exactement ce que j'avais fait. Mais je n'ai pas ajouté un mot, et lui non plus. C'est un principe quand on vit dans le mensonge, on fait semblant de ne pas le voir. On le laisse trôner, comme un éléphant au milieu du salon. Je suis montée à l'étage, j'ai défait mon sac, j'ai pris ma fille et je me suis balancée en la serrant contre moi. Et, assise à lui lire « Je vais me sauver », en l'embrassant doucement sur le sommet du crâne, j'ai découvert que, pute ou non, épouse adultère ou non, ma fille me procurait exactement la même sensation, avait exactement la même odeur, m'aimait exactement de la même manière. Pendant la semaine qui a suivi, je ne me suis habillée et déshabillée que lorsque j'étais seule, par égard pour Jason. Et cette semaine-là, il a passé toutes ses nuits voûté devant l'ordinateur jusqu'au petit matin, cherchant de toute évidence à m'éviter. Quelque part vers la septième ou la huitième nuit, quand les traces de morsures ont été guéries et que je me suis une nouvelle fois réveillée dans un lit vide, j'ai décidé que ça avait assez duré. J'aimais Jason. Je l'aimais vraiment. Je croyais qu'il m'aimait. Et il m'aimait vraiment, seulement jamais il ne me ferait l'amour. Comble de l'ironie, le seul homme qui me montrait enfin du respect, de l'attention et de la compréhension était aussi celui que mon corps n'intéressait pas du tout. Mais l'amour reste de l'amour, pas vrai? Et n'est-ce pas, d'après les Beatles, la seule chose dont nous aurons toujours besoin? J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis descendue à pas de loup pour demander à mon mari de revenir dans le lit. Je l'ai trouvé, comme d'habitude, penché sur l'ordinateur familial. J'ai remarqué qu'il avait les joues en feu, les yeux trop brillants. Il avait disposé devant lui toutes sortes de documents financiers, notamment une demande de carte de crédit en ligne. « Fous le camp », m'a-t-il ordonné, et vu le ton de sa voix, j'ai fait exactement ce qu'il disait. 4 heures plus tard, installés côte à côte au bar de la cuisine, nous mangeons tous les deux des céréales. Lui gazouillait dans la balancelle et ni l'un ni l'autre ne disait un mot. Il mâchait, je mâchais. Alors il a tendu la main et très lentement pris la mienne. Nous étions réconciliés, juste comme ça. Jusqu'à la prochaine fois, il faudrait que je disparaisse dans une chambre d'hôtel, supposais-je. Jusqu'à la prochaine fois où il faudrait qu'il disparaisse dans l'ordinateur. Je me demande si les ténèbres envahissaient son esprit. S'il lui est arrivé de sentir une odeur de rose fanée, de maudire la couleur de ses yeux ou le grain de sa peau, mais je ne lui ai pas posé la question. Jamais je ne le ferai. La règle numéro 1 du mensonge, vous vous souvenez, toujours faire comme si on ne voyait pas. Et j'ai compris, au-dessus d'un bol de céréales ramollies, que je pourrais vivre comme ça, cloisonnée, présente, mais à part, avec lui, mais seule, aimante, mais séparée. C'était de cette manière que j'avais passé l'essentiel de mon existence, après tout. Dans une famille où ma mère pouvait surgir au milieu de la nuit pour faire des choses innommables avec une brosse à cheveux. Et quelques heures plus tard, nous nous asseyons l'une en face de l'autre à la table du petit-déjeuner pour partager une assiette de pain au lait. Ma mère m'avait bien préparée à cette vie. J'ai jeté un regard vers mon mari, qui croquait ses Cheerios. Je me suis demandé qui l'avait préparé, lui. La conférence de presse de la police de Boston débuta à 9h03. Et lorsqu'elle s'acheva, Jason le sut dans la seconde qui suivit, car son portable sonna. Il n'avait pas suivi le point presse à la télé. Après avoir séché les larmes de sa fille et nourri un Mr. Smith très demandeur, il avait fait monter sa fille et le chat dans la Volvo de Sandy. Mr. Smith s'était affalé de tout son long dans un coin du soleil et immédiatement endormi, car Ferrar, c'était un chat qui appréciait les trajets en voiture. Rhee, quant à elle, assise sur son rehausseur, serrait Doudou Lapine contre elle en fixant Mr. Smith comme si elle le conjurait de rester là où il était. Jason roula, essentiellement parce qu'il avait besoin de bouger. Il avait l'impression de se trouver dans les plaines immenses du Kansas et de voir une tornade toucher terre sans pouvoir sortir de sa trajectoire. Il ne pouvait que voir le ciel s'assombrir, sentir les premières bourrasques d'un ouragan lui fouetter le visage. La police avait tenu à une conférence de presse. À présent, la machine médiatique se mettait lentement mais sûrement en branle. Il n'y pouvait rien. Personne n'y pouvait rien. Son téléphone sonna encore. Il jeta un œil à l'écran avec un fatalisme grandissant. Dans le rétroviseur, il regarda à nouveau sa fille, qui, l'air grave, s'efforçait d'être heureuse, en contemplant son chat endormi alors que ce qu'elle désirait le plus au monde, c'était un câlin avec sa maman. Il ouvrit le téléphone et le porta à son oreille. « Salut, Greg. »« Putain de merde !» explosa le rédacteur en chef du Boston Daily. « Pourquoi tu nous as rien dit, Jason? Voyons, on est de la famille, on aurait compris. » « Ça a été une période difficile, » répondit machinalement Jason, qui eut l'impression que les mots sortaient tout seuls, comme dans un lointain passé. « Tu veux faire les gros titres? Tu y perdras seulement ta vie, ou peut-être celle de ton enfant, ou celle de ta femme. »« Qu'est-ce qui se passe, Jason? Et je te pose pas la question de rédacteur en chef à journaliste. Tu sais que je te ferai jamais ça. » »« Encore un mensonge, il y en aurait beaucoup dans les jours à venir. »« Je te parle comme un membre de ta famille journalistique. » Le type qui a vu les photos de tes proches et qui sait à quel point tu les aimes. Est-ce que tu vas bien ? Je prends les journées les unes après les autres, récita Jason sur un ton monocorde. Des nouvelles ? Je dois dire que la police est restée franchement dans le vague. On espère que la population pourra fournir des indices, répondit consciencieusement Jason. Et ta fille, Clarissa, comment elle tient le choc ? T'as besoin d'aide, mon vieux ? Merci ta proposition, on prend les journées les unes après les autres. Jason... « Jason, mon vieux, je pourrais pas travailler ce soir, Greg. »« Évidemment. Merde, bien sûr qu'on comprend. Il faut que tu prennes une semaine, peut-être un congé exceptionnel. Tout ce que tu voudras, on est avec toi, mon vieux. »« Mais ne nous oublie pas, hein, mon pote. L'exclusivité en première page, les dessous des affaires révélées à la une par le mari en personne. Hein, mon pote ?»« Merci de ta compréhension. »« On est avec toi, Jason. Tout ce que tu voudras, tu l'auras. On te fait confiance, mon vieux. » Quoi, cette idée que t'aurais fait du mal à Sandra ? Merci de ta compréhension. Jason raccrocha. C'était qui ? Demanda Rhee depuis la banquette arrière. L'ancien employeur de papa, répondit Jason, et il ne plaisantait pas. Le central de police de Boston était un monstre de verre et d'acier qui avait été parachuté au milieu des logements sociaux de Roxbury, dans l'espoir qu'une présence policière massive donnerait un coup de fouet à la réhabilitation de ce quartier défavorisé. Mais ils faisaient surtout craindre pour leur vie aux employés comme aux visiteurs. Jason examina les possibilités de parking avec une vive appréhension. Il n'espérait pas retrouver sa Volvo intacte à la sortie, et franchement, il était inquiet pour le chat. Pendant les 36 heures qui venaient de s'écouler, Mr. Smith avait de toute évidence épuisé au moins une de ses 9 vies. Qui savait combien il lui en restait ? On ne devrait pas être là, papa. Dit Rhee en descendant de voiture, cramponné à sa pluche. Le parking, tout en asphalte fissuré, était cerné de barrières en béton, une déco façon Beyrouth. Jason réfléchit, prit dans la voiture son calepin et le feutre crayola rouge de Rhee. Il arracha 2 feuilles et écrivit en lettres capitales « En quarantaine, chat enragé, attention, ne pas toucher ». Il mit une feuille à l'avant de la voiture et l'autre à l'arrière. Puis il regarda Mr. Smith qui ouvrit paresseusement un œil doré, bâilla et se rendormit. « Sois un bon chat enragé, » murmura Jason, puis il prit fermement Rhee par la main et se dirigea vers le passage piéton. Alors qu'il s'approchait de l'immense bâtiment de verre, son pas se ralentit, c'était plus fort que lui. Il regarda la main de Rhee, bien à l'abri dans la sienne, et ce fut comme si ces 5 dernières années étaient passées à la fois trop vite et trop lentement. Il aurait voulu revenir en arrière. Il aurait voulu saisir chacun de ces instants et l'étreindre parce que la tornade arrivait. Elle arrivait et il ne pouvait pas s'en écarter. Il se souvint de la toute première fois où sa fille avait agrippé son doigt, alors qu'elle n'était âgée que d'1 heure et que sa main incroyablement petite s'était refermée avec détermination autour de son index immense. Il se souvint de ses mêmes doigts, un an plus tard, recevant leur première brûlure quand elle avait attrapé la bougie de son petit gâteau d'anniversaire, avant que Sandy ou lui ait pu la prévenir que c'était chaud. Il se souvint d'un après-midi où, croyant qu'elle faisait la sieste, il était allé sur Internet lire trop d'histoires tristes d'enfants tristes et où il avait fondu en larmes, avachi sur la table de la cuisine. Voilà que tout à coup, Ree avait été là, avec ses petites mains de 2 ans sur son visage pour essuyer ses larmes. « Pas triste, papa !» lui avait-elle calmement chuchoté. « Pas triste !» Et la vision de ses larmes sur les petits doigts de sa fille avait failli le faire sangloter à nouveau. Il avait envie de lui parler, de lui dire qu'il l'aimait, qu'elle devait lui faire confiance, qu'il la protégerait, qu'il allait trouver une solution, faire en sorte que le monde revienne à la normale. Il avait envie de la remercier de lui avoir donné 4 années magnifiques, d'être la meilleure petite fille du monde, d'être le soleil sur son visage, l'éclat de son sourire et l'amour de sa vie. Ils arrivèrent aux portes vitrées et les doigts de l'enfant s'agitèrent nerveusement dans sa main à l'approche du central de police. Jason regardait sa fille. En fin de compte, il ne lui dit rien de tout cela. À la place, il lui donna le meilleur conseil qu'il pouvait lui donner. « Sois courageuse », lui dit-il en poussant la porte.